Les cours du Collège de France, Louis Fensterbank, chaire Activation en chimie moléculaire.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour cette troisième session du cours Activation photochimique. Alors aujourd'hui, donc, on aura deux temps, comme les autres fois, avec un premier cours consacré aux autres transformations photochimiques. Je vais revenir un petit peu sur ce titre. Et puis, donc, suivi du séminaire de Zakaria Samara, du CNAM à Paris, qui va nous parler de contrôle interfacial dans des procédés photochimiques pour faire de la chimie verte, et notamment, il va nous parler de photocatalyse supportée et de réactions en flot. Alors, j'avoue que ce titre, initialement, moi, est un peu vague, hein, parce qu'on ne sait pas trop de quoi je vais parler, et j'avoue que pendant très longtemps, je ne savais pas non plus de quoi j'allais parler. Et il fallait faire un choix parce que le nombre de possibilités en photochimie est importante. Ce qu'on a vu, bon, on va dire, dans les deux premiers cours, surtout la semaine dernière, vraiment le squelette, vraiment l'initiation importante, enfin le domaine d'irrigation principal de la photochimie avec ses photocycloadditions, ses fragmentations, et tout ça, ça a été vraiment le corps historique. Mais il y a eu d'autres réactions très importantes qui surtout sont revisités maintenant et donnent lieu à un important de réaction. Et donc, on va parler notamment de complexité moléculaire via la cycloaddition ARN-alkène. Alors, celle-là reste relativement historique dans ses développements, vous allez le voir, au niveau des dates. Mais, à mon avis, il va certainement être revisité tôt ou tard. On va parler de chimie verte en nous basant sur la chimie des nitro-ARN pour des oxydations principalement de double liaison et de noyau aromatique. Comment faire ça sélectivement et proprement. Et puis donc aussi quelque chose qui s'est imposé beaucoup dans la littérature récemment, poussé par vraiment l'idée de la découverte, la drug discovery. Donc c'est le late stage functionalization, bon, qui est bien connu par la CH avec des complexes organométalliques. Mais là, donc, on va voir des réactions photochimiques et aussi notamment le concept de molecular editing où globalement, très sélectivement, on va changer un atome sur une molécule. Alors, généralement, il n'y a qu'une flèche, mais enfin, il y a quelques transformations et généralement, il y a une transformation photochimique. Donc, commençons par la première histoire et on va partir sur les composés aromatiques et notamment le plus simple des termes qui est le benzène, magnifique molécule qui avait donné des insomnies à Kekulé quand il avait fallu écrire la délocalisation des électrons. Donc c'est une histoire qui est toujours assez intéressante de relire, mais globalement la photochimie du benzène est relativement complexe. Molécule simple, photochimie complexe, tout simplement parce que on a trois états singuliers dans l'UV, voire UV très très profond, avec des irradiations hautement énergétiques. Pour donner un nombre de produits importants et complexes, les benzvalènes, le fulvène, le benzène de Dewar et d'autres intermédiaires potentiels. Et donc, cette photochimie du benzène, elle a été examinée dans différents contextes, par différents papiers, donc ça occupait les gens beaucoup dans les années 60, 70, notamment en phase gaz, à 185 nanomètres. Il semblerait que le produit principalement formé, c'est ce fulvène, et un produit acyclique, ouvert, interprété dans la revue de Christian Baucher comme étant ce Dien-In, potentiellement. Donc cette revue ici reprend de façon très intéressante toute la chimie de cette N-ARN réactivité. C'est aussi traité de façon très intéressante dans ce chapitre de livre. Une fois de plus, je reparle de ce livre qui est vraiment bien. Et donc, ça, c'est en phase gaz. En solution, à 254 nanomètres, a priori, c'est le benzvalène qui se forme, qui en fait s'isomérise en fulvène. Et le fameux benzène de Dewar, qui est une molécule qui existe, hein, lui ne peut être obtenu que vraiment en peuplant les états singuliers S2 et S3, donc à très haute énergie. Il se trouve que si on arrive à l'isoler, il a une durée de vie qui est non négligeable et il va s'isomériser lentement et thermiquement vers le benzène. Par contre, des benzènes de Dewar vraiment isolés et caractérisés, il y en a déjà eu. Il suffit de mettre, dès que vous mettez des terbutyles sur les doubles liaisons ici, en partant d'un benzène substitué, vous allez avoir quelque chose qui. Vous pouvez former un benzène de Dewar totalement isolable. Donc voilà, donc ça, c'était relativement intéressant d'un point de vue théorique, assez peu d'un point de vue, on va dire, synthétique, mais ça a conduit les gens à examiner la photochimie du benzène, mais en présence d'un alcène. Et là, vous allez plusieurs scénarios possibles. Vous allez avoir une réactivité de cycloaddition qui peut être soit une 2 plus 2, on va dire qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu jusqu'à présent, soit une réactivité de type 3 plus 2, donc c'est ce qu'on appelle la cycloaddition méta, ou une cycloaddition 4 plus 2, finalement de type, on va dire, 10 aldères, qui correspond à une cycloaddition para. Pardon. Alors, celle-là, je ne vais pas en parler beaucoup, tout simplement parce que, un, elle est très rare, deux, il n'y a pas vraiment de prédiction quant à sa réactivité, trois, la plupart du temps, c'est intramoléculaire, mais ça reste quand même une chimie, une cycloaddition assez peu développée. Celle qui est particulièrement intéressante, c'est évidemment l'ortho, mais peut-être encore plus celle-là, quand vous voyez la complexité du produit final par rapport au départ. On a deux molécules complètement planes, et là, on a créé potentiellement 1, 2, 3, 4, 5, 6 centres stérogènes, avec ce cyclopropane, vinyl cyclopropane, qui est lui-même riche en réactivité. Donc vous voyez tout de suite, là, on arrive à un degré de complexité moléculaire très, très important. Au niveau du mécanisme, on va en parler un petit peu plus dans le détail, on formerait un hexiplex qui correspondrait en fait à un complexe entre le benzène photoexcité ou l'alcène, mais globalement, généralement, c'est plutôt le noyau aromatique photoexcité. Et puis on évolue vers des processus biradicalaires avec une première formation liaison carbone-carbone, et ce couple diradical ici évolue vers la cycloaddition ortho, mais il peut aussi évoluer vers la méta comme on va le voir. Donc là aussi des revues assez intéressantes de Thorsten Barr, c'est sur l'application dans la synthèse de produits naturels. Wender, on va voir ses contributions, a été un des gros contributeurs sur cette chimie dans les années 80-90, et Cornelis également en Hollande. Alors, comment, face à une réaction qui peut partir un petit peu, j'ai envie de dire, dans tous les sens, comment anticiper la réactivité et du moins la prévoir? Et finalement, c'est quelque chose qui n'est pas si clair d'après la littérature. Si vous la lisez comme ça, vous allez avoir du mal à avoir vraiment des guidelines pour vraiment dire, bah là je veux une ortho, là je veux plutôt une méta. Mais en fait, il y a bien des choses qui ont été dites et qu'on va essayer donc de résumer. Donc si effectivement, si vous mélangez un noyau aromatique avec une oléfine, vous pouvez avoir des produits en fait de substitution aromatique, tout simplement, ou des produits de cycloaddition. Et en fait, tout ça va être très très fortement lié à l'électronique des partenaires. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez des partenaires d'une électronique extrêmement distincte, qui sont par exemple un très très fort donneur et un très très fort accepteur, ou inversement, vous allez évoluer rapidement vers des produits de substitution ou autres types d'addition. La cycloaddition va être en fait réservée à des partenaires avec une variation d'électronique plus modérée. Et là, juste pour, on va dire, résumer, l'ortho sera dans le cas de partenaires accepteurs et donneurs, c'est-à-dire l'un est donneur et l'autre est accepteur. Et la méta, c'est généralement, il n'y en a qu'un seul qui a une électronique relativement affirmée. Donc ça, c'est le résumé global, mais sur lequel on va revenir. Donc, comment voir ça? Donc, il y a des papiers qui ont été importants. Il y a d'abord ce premier papier là de Gilbert et Bryce Smith qui montre que c'est la différence de ionization potential qui va guider si on fait ortho ou méta. Et donc, typiquement, si on a une différence relativement importante, on va obtenir le produit de cycloaddition ortho, sinon on obtiendra la cycloaddition méta quand la différence est relativement plus faible. Mathé est parti de ce travail et lui a complètement systématisé cette approche et s'est basé plutôt sur l'équation de Rehm-Wöhler où il y a les potentiels des états fondamentaux des partenaires ainsi que leur énergie d'activation. Et donc, il a dit que, globalement, ce qui est important, c'est le changement d'énergie du transfert électronique entre les deux partenaires. Donc s'il est très très favorable, c'est-à-dire s'il est négatif, alors on va d'abord évoluer vers des réactions de substitution. S'il est positif, on va plutôt évoluer vers des réactions de cycloaddition. Mais dans la, vous allez voir, quand on est dans les positifs, il y a plusieurs domaines. Si on est moyennement positif, ça sera plutôt ortho. Et si on est très positif, enfin, a priori donc très défavorable, c'est plutôt méta. Donc en fait, ça va dans le même sens. Globalement, on en vient toujours à ce problème que si on a des électroniques relativement, une variation électronique relativement modérée, on va favoriser le produit méta. Donc c'est ce qui est dit ici. Si c'est négatif, substitution. Si c'est positif, ici, cycloaddition. Et là, on va voir quelques variations. Donc, j'ai pris les tableaux qu'il a donnés dans cette Tridron 85, qui sont quand même assez, assez jolis, et qui montrent typiquement que si on prend comme accepteur ici le benzène, et qu'on lui met à réagir toutes ces oléfines ici, fortement enrichies de deux groupements oxygène mésomère donneur, on va favoriser le produit ortho jusqu'à une certaine différence d'énergie où on va rentrer dans le système méta. Alors typiquement ici, donc ça c'est relativement simple. ce qui l'est moins ici, par exemple, c'est typiquement cette molécule, elle est fortement acceptrice. Parce que là, on a changé le partenaire, puisqu'on a maintenant un carbonate ici. Donc, ça change l'électronique de la double. Et donc, on s'attendrait aussi qu'elle réagisse en ortho. Or, elle va réagir en méta. Donc, il y a quand même quelques exceptions qui ne sont pas complètement expliquées. Et on va voir un autre cas. Mais bon, globalement, vous êtes confiant que si vous faites réagir un aromatique pas très riche et que vous lui mettez ces oléfines, vous allez faire vraiment facilement de l'ortho. Alors, pour faire de la méta, donc là, il a également examiné différents cas avec d'autres types d'oléfines. Donc là, le benzène est encore accepteur, différents types d'oléfines enrichies. On va se retrouver dans le domaine ortho, mais pour avoir, par exemple, la méta, vous voyez, on va graduellement avoir des oléfines de moins en moins riches qui, elles, vont donner le produit méta avec une différence d'énergie qui est ici évidemment supérieure à celle-là. Et par contre, si on met des oléfines très 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 acceptrices, et ben du coup on va se retrouver dans le cas où le benzène devient lui le donneur, et c'est donc les oléfines qui sont acceptrices, et là une fois de plus on va former le produit ortho. Donc vous voyez, c'est assez facile de faire des produits ortho. Il suffit de mettre deux partenaires, on va dire, relativement distincts. Et on voit que là, les régions pour les produits méta, elles, sont un petit peu plus, finalement, difficiles. Enfin, c'est des partenaires moins marqués. Et puis là, c'est avec l'acrylonitrile. Donc là, on change complètement l'aromatique. Donc on a un aromatique qui est très, très accepteur. Donc une série d'oléfines donneuses vont très bien marcher pour donner le produit ortho. Et méta, ça sera, ça commence, on va dire, à partir de cette dichloroléphine qui est quand même un petit peu, qui est assez différente. Et là aussi, théoriquement, ces oléphines ne devraient pas être là parce qu'elles sont relativement acceptrices. Hein. L'acrylonitrile, étonnamment, réagit bien en ortho avec le cyanobenzène. Donc ça, c'est a priori, ça ne va pas dans le sens de ce que je vous ai dit. Donc il y a quand même quelques exceptions non réellement rationalisées. Bon. D'un point de vue synthétique, comment ça se traduit? J'ai pris des exemples, a priori, sans trop d'ambiguïté. L'anisole, ici, par exemple, peut réagir avec cet acrylonitrile, former cet aduit ortho. Alors, c'est vrai que je n'ai pas mis le rendement ici, mais dans certains cas, les rendements peuvent être très bons. Ici, c'est le cas, avec cet acétylène. Donc là, on a 86% de rendement sur cet hexafluorobenzène pour former ce cyclobutène. Et puis, vous voyez, on peut faire réagir là aussi différents partenaires comme l'éthylène qui va réagir là aussi en ortho sur cet aromatique très, très appauvri. Et donc, on va obtenir... Après, on peut réagir une deuxième fois, mais là en thermique, en fait, pour former ces produits ici tricycliques. Donc, l'ortho, c'est relativement facile. Ce qui était intéressant, c'est la méta. Alors déjà, la méta, si on regarde bien, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on va partir d'un aromatique ici. Si on labelle, c'est de carbone. Ici, ceux de la double liaison. Donc, on passe par le diradical. Et donc, les deux carbones ici, l'oléphine, ont d'abord sont engagés dans une liaison carbone-carbone ici avec l'aromatique. On a un radical ici et un radical ici. Et donc, on va maintenant refermer. On va joindre ces deux radicaux pour former cyclopropane. Et donc, ça nous donne ce produit-là. Donc globalement, ici, on photoexcite l'aromatique et il réagit en 3 plus 2. Alors il y a un degré de polarisation dans l'état de transition qui fait qu'on va plutôt mettre ici des groupements donneurs et ici on mettra, si on a le choix, des groupements accepteurs. C'est en gros ce qui est indiqué ici. Et donc ça nous donnera ici généralement des produits de cycloaddition 3 plus 2 où ici on se retrouve avec un groupement mésomère donneur et ici des groupements mésomère accepteur. Donc ça c'est le principe. Donc une fois de plus, je vous dis, ça a été relativement bien traité dans la revue de Christian Boucher et dans cette revue également. Et maintenant un exemple, si on irradie le benzène à 254 avec l'éthylène, on peut isoler ce composé tricyclique de façon très très majoritaire. C'est vraiment le produit majoritaire qui est formé. Là, on a un hydrocarbure pur sans trop de fonctionnalisation, même s'il reste une double, évidemment, on peut se prêter à pas mal de fonctionnalisations. Mais maintenant, si on a l'anisole, ça marche déjà. Globalement, les réactivités sont bien meilleures et on n'obtient qu'un seul adduit, qui est celui-ci. Que vous pouvez voir aussi comme ça et qui correspond globalement à cette formation liaison carbone-carbone que je vous ai indiqué, puis les 10 radicaux, le radical ici s'additionne là, on forme un radical là qui forme le cyclopropane et donc on obtient ça qui correspond à ça. Et ça, ce produit là, si vous le traitez en milieu acide, va vous donner ce composé tricyclique ici avec un très très bon rendement. Alors, j'ai pas beaucoup mis les rendements parce que souvent les papiers sont un petit peu discrets là-dessus. Et souvent, d'ailleurs, les rendements, dans certains cas, sont vraiment pas excellents. C'est du genre de 15-20%. Donc, je pense aussi que ça s'explique pourquoi probablement qu'un nombre limité de labos ont travaillé dessus. Mais il y a des cas où parfois ça marche quand même globalement bien. Alors, celui qui a beaucoup développé cette chimie, donc c'est Paul Wender qui est professeur à Stanford, qui est toujours d'ailleurs en activité, qui a commencé sa carrière à Harvard, et c'est parmi les domaines dans lesquels il s'est fait connaître, c'est d'arriver à synthétiser beaucoup de produits naturels et notamment des sesquiterpènes variés dont la synthèse totale était pas vraiment développée, qui par ailleurs dans certains cas peuvent présenter des propriétés antitumorales assez intéressantes. Alors, il est connu aussi pourquoi Paul Wender, un autre domaine où il a été très prolifique, il l'est toujours, c'est sur les peptides, les cell penetrating peptides. Hein, il est très actif, comme ici, il y a eu le laboratoire, par exemple, d'Alain Prochiance et puis d'autres labos, évidemment, en France. Mais c'est vraiment son domaine, peut-être même principal d'activité, malgré tout, encore en ce moment. Alors, donc, le principe de cette cycloaddition méta, c'est, on le voit ici, on peut former deux régions isomères. Et comme vous voyez, le rendement reste modéré, mais malgré tout, quand vous voyez le nombre de liaisons carbone-carbone qu'on a formées et le fait qu'on obtienne ce produit sous la forme d'un seul diester isomère, ça reste finalement relativement intéressant. On peut ensuite hydrolyser cet acétate, oxyder, former une cétone. Quand on a cette cétone, eh bien, en fait, on a évidemment des énolates qui sont disponibles, donc on peut perméthyler, introduire un certain nombre de méthyles ici avec le iodométhane en conditions thermodynamiques. On ouvre le cyclopropane par un dérivé de type cuprate, donc on a une attaque ici régio-sélective. On forme cet énolate qui, une fois de plus, peut être réduit par le lithium, éthylamine. On a déjà vu ces conditions la semaine dernière, je crois, conditions de Pulsar. Et donc, dans ce cas-là, on arrive à ce modéphène, donc qui est un produit naturel. Donc, les autres étapes sont relativement satisfaisantes, mais malgré tout, le nombre finalement global d'étapes pour arriver au produit naturel reste quand même assez limité. Parce que si on regarde les autres synthèses, on a quand même certainement comprimé de moitié le nombre d'étapes. Donc juste pour résumer, ce qui est aussi assez puissant, c'est de le faire par exemple en intramoléculaire, cette cycloaddition méta, qui nous permet d'arriver à deux cyclos adduits régio-isomères. En fait, le site d'attaque de la double liaison sur le noyau aromatique est identique, c'est le cyclopropane qu'on va pouvoir former ici, qui va varier. Si on regarde bien, je peux former ce cyclopropane ici, mais je peux aussi faire bouger cette double et former le cyclopropane ici. Okay. Donc ça peut nous donner naissance à deux régio-isomères. Et d'ailleurs, c'est le cas, si vous regardez bien, ce qui s'est passé ici aussi. Donc, ces deux régio-isomères, après, le jeu, c'est en fait de cliver ces liaisons A, B, C par différentes voies chimiques. Et si on clive en A, on arrive sur la famille des hirsutènes. Donc, on a cassé cette liaison carbone-carbone. Le clivage B va nous donner ce composé tricyclique ici, qui est en fait le cédrène. Et clivage C donc, nous emmène sur les isocomènes. Donc là, dans ce cas-là, là, c'est trichinane, ce qu'on appelle linéaire. Et ici, trichinane angulaire. Alors, un exemple de synthèse, j'ai pris la corioline. Bon, pas forcément celle qui a où le rendement est le meilleur, mais qui montre quand même l'efficacité. Donc, on a cette cycloaddition 3 plus 2. On forme ce composé en rendement modeste, mais de façon très stéréosélective. Comment casser maintenant, ouvrir ce cyclopropane? On va utiliser de la chimie radicalaire. Hein. On forme un petit peu de radical thyl qui s'additionne ici. Le radical qui est ici, comme vous le savez, ça on l'a vu aussi dernière, est en alpha d'un cyclopropane, donc il va s'ouvrir très vite. On va casser sélectivement en fait, ici cette liaison carbone-carbone et on va former ce dérivé. L'avantage d'un sulfure, c'est que ça s'élimine facilement par un traitement réducteur. Et puis ensuite, on libère cet acétal, on forme un formate. Et en quatre étapes, on arrive au produit naturel qui est la corioline. Donc vous voyez qu'elle est relativement habillée. En fait, plus ces composés-là, d'ailleurs, sont hydroxylés, plus leurs activités biologiques sont intéressantes. À noter quand même que ce sont des synthèses racémiques. Hein. Ce ne sont pas des synthèses énantio-sélectives. Alors, donc deuxième histoire. Pour aujourd'hui. Donc, juste pour en terminer quand même avec la NARN, ça reste utilisé dans des synthèses de produits naturels de nos jours. C'est vrai que, comme vous voyez, on est dans l'UV quand même, et les rendements restent parfois problématiques, voire même les sélectivités. Donc, certainement, moi je pense qu'on peut anticiper quand même quelques certainement améliorations de ce genre de réactivité prochainement. Alors, une chimie qui était finalement très très connu dans les années 50-60 et aussi par Saito dans les années 70, donc les années 50-60, Bucci, Desmaio, toujours lui, Braun, c'est de photoexciter un nitro et en fait d'arriver à ce diradical ici, triplé, qui est un état relativement stable et qui offre des possibilités de réactivité particulièrement intéressantes puisqu'il peut être il peut faire du transfert d'hydrogène par le haut point, mais il peut aussi faire une cycloaddition, puisqu'on a ce diradical qui peut s'additionner sur une double liaison. Donc, globalement, on a principalement une transition N-pi étoile. On va voir que ça, c'est, on va dire, le dogme de départ. Récemment, les choses ont un petit peu changé. Que la différence entre l'état singulier triplé, dans le cas du nitrobenzène est de 17 kcal, alors qu'il est de 8 kcal pour la benzophénone. Donc ça veut dire quand même que cet état triplé, par certains côtés, il est quand même un petit peu plus difficile à faire. Il sera moins énergétique que celui de la benzophénone et généralement, il est un petit peu moins stable. Globalement aussi, ce qui arrive, c'est qu'en fait, il est très fortement réactif par transfert d'hydrogène. Parce que les hauts points sont très arracheurs d'hydrogène. Donc c'est quelque chose, en fait, je ne vais pratiquement pas vous montrer de transfert d'hydrogène aujourd'hui, je vous montrerai des transferts d'hydrogène probablement dans le cours numéro 6, mais on va tomber sur des substrats qui, eux, font globalement, exclusivement la cycloaddition. parce que leur électronique est particulièrement favorable pour ça. Alors, donc chimie qui a été donc découverte initialement par Bucci, mais qui globalement UV donc donne des mélanges un petit peu complexes, des rendements qui vont avec. Et donc l'idée, c'est tout simplement, est-ce qu'on peut utiliser cette cycloaddition 3 plus 2 d'un nitro-ARN photo-excité pour finalement ne plus avoir à acheter un ozonoviseur, c'est-à-dire en fait faire de l'ozonolyse relativement facilement. Parce que comme vous le savez, faire de l'ozonolyse, donc il vous faut cet appareil, vous faut une bouteille d'oxygène, un arc électrique, vous formez l'ozone, qui est quand même un gaz relativement explosif, toxique aussi. Alors, une fois qu'il réagit avec un alcène, vous pouvez former évidemment cet adduit ici d'ozonide, principalement de malozonide, qui est relativement instable, qui se rouvre, fait une rétro 1 plus 3, forme celui-ci, et c'est lui qui va évoluer selon les traitements, soit acide, soit réductif, ou dépendant des agents, on va pouvoir former des aldéhydes, des cétones, des alcools, des acides. Bon, c'est quelque chose qui marche très bien, mais qui n'est pas donc sans problème. Personnellement, moi, des accidents liés à des ozonolyses dans les labos, sur toute ma carrière, j'en connais au moins déjà deux sévères. Donc quand même, c'est quelque chose qui n'est pas anodin quand on se lance dans une ozonide. C'est surtout le traitement ici qui est particulièrement important, qu'il faut vraiment faire de façon très 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 propre. D'où l'idée de remplacer par finalement quelque chose qui serait probablement plus doux. Cette addition, cette photo cycloaddition thermiquement ne marche pas. Donc si on passe à l'état excité triplé, on va pouvoir avoir une addition radicalaire étape par étape. On forme un intermédiaire radicalaire triplé, biradicalaire, qui lui va pouvoir donc revenir à un état singulé qui va pouvoir utiliser la recombinaison des radicaux. Et donc, on forme un intermédiaire ici qui s'appartient, que Léonori appelle un endop-ozonide, qui lui-même a une réactivité assez riche et qu'on peut cliver pour former le dérivé carbonylé. Alors, c'est aussi une alternative à l'autre oxydation bien connue, celle de Lemieux-Johnson, bon, qu'on apprend quand on est en L2, où globalement on sait qu'on a une oléfine, on met de l'osmium et un périodate, et donc on forme par exemple, on clive et on forme deux aldéhydes. Bon, là aussi, l'osmium, n'en parlons pas, même si les catalytiques, c'est catastrophique, et les périodates, c'est quand même. Bon, là du coup, c'est peut-être un peu trop oxydant dans certains cas. Alors, donc. Un certain nombre de choses ont été connues, notamment aussi par le groupe de Saito, notamment cette addition de nitrobenzène sur cette oléfine, il y a un RX de cette structure. Et globalement, ce qu'a fait Léonori, c'est de regarder l'habillage de l'aromatique et de voir la différence de réactivité. Et donc, ce que vous voyez ici dans cette courbe, c'est que globalement, on a la constante de Hammett. Plus elle est élevée, plus ça veut dire que notre aromatique est appauvrie en électrons. Et là, globalement, c'est la cinétique de la réaction. Et donc, globalement, il y a une très bonne corrélation entre cet effet électronique et cette cinétique, puisque plus on a affaire à des nitro-aromatiques, on va dire électrons déficients, plus la réaction se fait bien. Et donc, on va avoir ce produit facilement. Donc ça, c'était quelque chose qui n'avait pas forcément complètement été mis en évidence. Et par exemple, un des réactifs qui marche très très bien, c'est celui-ci, le N1, où il prend cette oléfine ici, il prend ce nitro-ARN, et dans des conditions très très simples, d'irradiation avec une diode, lumière violette, dans l'acétate d'éthyle, et donc il obtient cet adduit ici, 71%, qui peut être isolé, vous voyez, c'est très stable, en tout cas beaucoup plus stable qu'un ozonide, et donc c'est un composé d'iosaxolidine, et là après, on peut, si on le remet dans l'eau et qu'on chauffe, on va obtenir le produit de clivage. Donc globalement, c'est quelque chose qui peut être fait sur assez gros, on peut isoler les produits. Donc on voit que l'électronique des substituants est importante. Donc, oui, hop, Voilà. Donc, il a évidemment examiné tous ces cas, regardé les rendements comparés. Il y a deux types de conditions, celle dont je viens de vous parler, l'acétate d'éthyle à basse température. Il y en a une autre qui est assez intéressante, c'est de travailler dans le biclos et de mettre un petit peu d'HFIP. Alors, pourquoi mettre de l'HFIP? Comme vous le savez, donc le HFIP, c'est ce dérivé-là. C'est un solvant protique. Et qui favorise beaucoup le H ici a une acidité importante et donc il va s'engager dans des liaisons hydrogènes assez facilement. Et donc l'idée c'est que en utilisant ce HFIP, quand on a des dérivés qui ont des hétéroatomes sur le squelette, en fait globalement, se prenant un substrat ici où on a par exemple un méthyléther et un petit peu plus loin on a une double liaison, l'hydrogène qui est ici et évidemment très arrachable par le haut point. À votre triplé, c'est très facile de faire le HAT ici, c'est très favorable, parce qu'on a un caractère hydridique de l'hydrogène ici, globalement, qui est assez fort, on a vraiment un delta moins dû à la donation ici. Et donc par contre, évidemment, si on commence à faire des liaisons hydrogènes avec le solvant, cette densité électronique baisse et donc globalement on diminue le caractère hydridique au niveau de l'hydrogène ici et donc on ralentit le HAT. Donc d'où l'idée de faire ces conditions qui permettent donc de généraliser l'emploi de cette technique. Donc comme je vous ai dit, donc on forme ce dérivé ici, cet intermédiaire qui lui aussi en fait a été montré qu'il s'ouvre de... Alors, Avant d'aller à l'histoire, il y avait deux possibilités. Soit on a un chemin B où on a cet mouvement des flèches qui nous conduit au dicarbonylé et on formerait un nitrène, ce qui est une possibilité qui a toujours été quand même envisagée dans la littérature. Soit, au contraire, on fait globalement la cyclo-réversion, un petit peu comme dans le cas d'une ozonolyse, et donc on forme cette carbonylimine, l'aldéhyde, et puis globalement, si on traite avec de l'eau, on obtiendrait donc ensuite celui-ci hydrolysé. Donc le nitrène, il y a eu des pièges à nitrène qui ont été mis dans ces réactions, il n'y a jamais eu de piégeage de dérivé nitrène, donc a priori on ne forme, forme pas de nitrène. Je vais vous montrer comment on peut malgré tout divertir cette réaction pour aller vers un nitrène. Mais donc globalement ça ressemble beaucoup à une ozonolyse à tout point de vue. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est ce code couleur où globalement, il a étudié plusieurs dérivés aromatiques, nitro, en faisant bouger l'électronique, donc quelque chose de très très électroattracteur à quelque chose de complètement relativement neutre. Et plus c'est rouge, moins c'est sélectif. Okay, et plus c'est bleu, plus c'est sélectif. Et donc ça, c'est les substrats qui sont engagés, on a des compétitions. On a deux types d'oléphines qui sont engagées. Donc, ce que vous voyez, c'est que si vous tapez avec quelque chose de très électrophile, comme le N1, globalement, lui va, comme il est très très électrophile, il va être relativement à chaque fois, globalement, c'est lui qui est le moins sélectif. Par contre, si vous tapez avec le N8, qui lui est moins électrophile, vous allez pouvoir être très très sélectif dans beaucoup de cas. Et vous voyez que la sélectivité, ça va assez loin parce que, bon, là, c'est facile, c'est vous avez deux groupements alkyle ici contre deux hydrogènes. Bon, là, tout le monde est relativement sélectif. Mais quand on commence à regarder quelque chose comme par exemple dit substitué versus mono substitué, il y en a vraiment un qui se détache, c'est le N8. Et là, par exemple, un cas vraiment compliqué, diphényl versus monophényl, Bon, il y a quand même une tendance où le moins électrophile va être le plus sélectif. Donc, si on a quelque chose qui est très très électrophile, globalement on coupe tout. Ok. Et donc ça, c'est les sélectivités ici entre les deux types de produits. Donc, l'effet clairement électronique des substituants sur le noyau aromatique est confirmé. En fait, parallèlement aux travaux de Eleonori, il y a ce travail de Parasram qui a été développé, lui, avec ce cyano-nitro-ARN, donc relativement électrophile, même un petit peu moins, et il arrive à cliver un certain nombre de doubles liaisons, notamment sur ce cyclohectène, et là aussi, dépendant du traitement, soit il peut faire le dialdéhyde, ou il peut faire aussi une hydrogénolyse et obtenir ces diols. Ce qui est intéressant ici, c'est que le rapport diastéromérique ici, vous n'avez pas qu'un seul diastéromère, vous en avez un, ce qui suggère que quand vous formez votre triplé et qu'il attaque la double liaison, c'est bien une attaque radicalaire par étape qui n'est pas moyennement stéréosélective, mais elle n'est pas stéréospécifique non plus. Voilà. Donc, ça, c'était une confirmation du caractère diradicalaire. Il s'est amusé à regarder un petit peu plus près l'évolution de ces intermédiaires d'oxazolidine, puisque si vous prenez ce nitro, il a fait ça en RMN photoilluminé, quelque chose qui se fait de plus en plus maintenant, hein, qui permet vraiment de suivre des réactions de façon assez importante, et surtout approfondie. Et globalement, donc, on obtient cet aldéhyde et cette carbonylimine. Qui peut réagir par une cycloaddition 3 plus 2. Et là, avec le temps, on voit que globalement, s'il n'y a pas de traitement, on peut évoluer vers cette nitrone, voire vers cette hétérocycle A3. Ça, c'est photo, toujours ces photos médiées. Et puis, on peut observer même des traces de l'amide qui est relativement lent. Donc globalement, ces intermédiaires, si on les laisse quand même sous la lumière assez longtemps, peuvent réagir et donner des mélanges. Ce qui est important aussi, et contrairement à ce qui était ce qui avait été potentiellement dit dans la littérature, c'est qu'il n'y a pas de electron donor acceptor complexe, donc un complexe EDA, c'est-à-dire que si vous faites un spectre UV du mélange, vous n'avez pas formation d'une nouvelle espèce. Vous gardez les deux espèces, il n'y a pas de formation d'un tel complexe, contrairement à ce qui avait pu être écrit. Par contre, ce qui est évident, c'est que si vous augmentez en augmentant la concentration du nitro-ARN, on voit globalement quand même une courbe différente qui apparaît au niveau UV, et donc qui suggère qu'on a des agrégats au niveau du nitro-ARN. Le tempo ne gêne absolument pas ces réactions. La radicale addition du haut center dans l'hélicol sur l'oléphine, elle est montrée par ce problème de diastéroselectivité. Et donc, les deux intermédiaires ici ont été observés par RMN. Et lui aussi, il exclut la formation d'un nitrène. Alors, comment pousser un petit peu plus loin cette chimie vers des réactions qui sont, elles, encore plus challenging? C'est globalement, est-ce qu'on peut aussi faire le clivage des aromatiques? Puisque l'ozonolyse d'un tel aromatique est relativement connue, MAV va généralement nous donner ce produit, ce diacide, donc tout est oxydé, puisque globalement on va aussi oxyder ici et donc former ça. Et donc, dans ce nouveau papier, donc Daniel Eleonori, là, qui est à Aix-la-Chapelle, a mis au point une façon d'utiliser l'état excité des nitro-ARN en remplacement de l'ozonolyse, mais qui permet d'obtenir très sélectivement ce produit monooxydé où on n'a pas touché à la double liaison. Donc, ce qui reste quand même quelque chose synthétiquement particulièrement intéressant. Alors, il se trouve que ce papier japonais là, de Saito est très intéressant parce qu'un certain nombre de ces observations avaient déjà été faites, mais globalement, l'apport vraiment majeur de ce papier, c'est vraiment de comprendre comment switcher cette réactivité et notamment, dans ce cas-là, de favoriser non plus que ça soit l'état triplé NP étoile qui réagisse, mais en fait un état triplé PP étoile qui est lui beaucoup plus sélectif vis-à-vis des aromatiques que des doubles liaisons. Donc autrement dit, probablement qu'il y a un petit peu moins d'iradicalaire par certains côtés et qui est aussi moins électrophile. Donc en jouant avec ça, on peut changer cette réactivité, donc c'est relativement expliqué ici. Alors, donc ce qu'on voit ici, c'est que là aussi on fait varier l'électronique des noyaux aromatiques. Ici, on regarde le rendement de la réaction des deux produits qu'on peut former, l'ozonolyse de l'aromatique ou le clivage de la double. Et donc, on fait varier donc, les dérivés. Donc, ce que vous voyez, on va prendre les deux cas les plus marquants. Si vous prenez le N1, donc celui qui est a priori vraiment très, très, très électrophile, enfin, relativement, il est très, très bon pour cliver cette double, et il est très mauvais pour cliver, pour faire cette ozonolyse. A contrario, celui qui marche très bien pour faire ce produit, c'est le N8, ici, avec deux méthoxy sur l'aromatique, et lui, au contraire, il donne un très mauvais rendement en produit de clivage de la double liaison. Donc, en prenant les deux extrêmes, vous arrivez déjà à discriminer votre chemin. Et globalement, ceux qui sont là, bon, c'est un petit peu au milieu, entre les deux. Et donc, comment expliquer ça? Donc, c'est que... Alors, je ne sais plus ce que je montre là. Ouais, non, je ne me trompe pas. Mais dans le cas où on a le composé, donc le N8, ici, on se retrouve dans une configuration où globalement l'état triplé est pratiquement exclusivement pi étoile, alors que le N1 a un état triplé npi étoile. Okay. Comment ça se caractérise? Si vous voyez, si on fait une DFT, le npi étoile est principalement centré sur cet intermédiaire diradicalaire qu'on a déjà vu. Le pi étoile est quelque chose qui est beaucoup plus délocalisé. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'en changeant cette électronique, on va changer l'accès à ces états triplés. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vous ai dit le nitro-ARN, on le photo-excite, on arrive assez facilement à l'état excité NP étoile. Quand vous avez des groupements mésomères donneurs sur le noyau aromatique, on va arriver à l'état triplé PP étoile. C'est lui qui est maintenant favorisé. Donc on a une inversion de la NP étoile est favorisée avec les groupements électro-attracteurs. Avec des groupements donneurs, c'est le pipi étoile qui est le plus bas et qui est plus facilement accessible. Donc ensuite, bon, lui garde son caractère aromatique. Lui, avec ses délocalisations, globalement, bon, c'est une anti-aromaticité de Baird. Donc quelque chose quand même qui est relativement réactif. Et donc la réactivité, bien qu'il n'y ait pas d'EDA, hein, une fois de plus, à aucun moment, c'est que globalement, on a cet exiplex qui est formé. Où la délocalisation du triplé ici joue vraiment à fond sur l'aromatique. Et donc, on va former cette addition qui reste quand même diradicalaire pour former cet adduit qui a pu être isolé quand il n'y a pas de double liaison. Donc, on a vraiment une réactivité complètement différente, juste en jouant sur cette électronique qui donc modifie l'état triplé, sa configuration et donc sa réactivité. Ça peut se concrétiser donc par des réactivités complètement alternées, c'est-à-dire qu'ici, si vous prenez celui qui est modéré, bah, vous allez cliver cette double liaison, mais vous ne touchez pas à celle-là, alors que si vous prenez celui qui est électrophile, c'est l'inverse, vous clivez complètement de ce côté-là. Donc il y a plusieurs exemples. Sur un système styrène, c'est pareil. On va pouvoir sélectivement oxyder celle-là sans toucher à celle-là et inversement ici avec le N8. Donc vous voyez qu'on arrive vraiment à diriger vraiment facilement la chimio et la régio-sélectivité de ces process. Si on parle de cet indole, on a une double liaison qui est relativement enrichie. Ça peut être intéressant aussi de regarder ces clivages sur les indoles. Donc là, on clive, on fait proprement l'ozonolyse, on va dire classique, avec celui qui est électrophile, alors que dans celui qui est le plus donneur, En fait, c'est le clivage de l'hétérocycle ici qui va avoir lieu, et ça quand même donne naissance à des intermédiaires qui sont intéressants. Donc voilà, ces états excités des nitro-ARN, j'ai envie de dire, a excité pas mal la communauté aussi dans diverses applications. Ici, on a une application du clivage des oximes hométhylés. Qui sont pas mal utilisés en fait comme groupement directeur pour des additions CH, des activations, des fonctionnalisations CH. Et généralement, étonnamment, si vous voulez cliver ça proprement sur un substrat un peu élaboré, c'est pas si simple. C'est des conditions toujours un petit peu difficiles, soit CHL en chauffant ou des réactifs qui peuvent quand même le SMI2. Bon, c'est un donneur d'électrons assez fort. Bon, pas très facile à utiliser par ailleurs, chloranil fortement oxydant, l'ozone, on l'a vu, c'est quand même là aussi c'est un peu le bazooka. Ce qu'a montré donc le groupe de Richmond Sarpong, c'est qu'en utilisant là aussi ce dicyano-nitro-ARN, on peut cliver cet oxyme en dérivé carbonylé, ce qui est particulièrement intéressant. Alors évidemment, il y a une limitation ici, c'est que si vous avez une double liaison sur le substrat, c'est la limite. C'est votre alcène qui va réagir en premier, vous ne touchez pas votre oxyme. Mais bon, globalement, il y a aussi une étude mécanistique qui est relativement intéressante dans cet article. Alors, comme je vous ai parlé de nitrène, donc a priori, on ne forme pas de nitrène, mais comment justement, promouvoir une réactivité de nitrène à un moment ou à un autre? Donc, si vous vous souvenez, on photo-excite le nitro-aromatique, on obtient cet état triplé. Et quelque chose qui avait été montré hier dans mon cours, et qui est relativement classique en chimie, c'est que si vous voulez déoxygéner, une bonne façon de le faire, c'est de mettre une triphénylphosphine, puisque vous savez que la force motrice pour arriver à de l'oxyde de triphénylphosphine est hyper importante. Et donc globalement, cet intermédiaire dioxygéné, si on le traite avec de la diphénylphosphine ou des phosphites, on va en fait former un intermédiaire de ce type-là qui va donner en fait l'oxyde de phosphine et le nitroso. Et puis le nitroso lui-même réagit encore une fois avec le dérivé phosphoré et on va libérer donc in situ quelque chose qui ressemble fortement à un nitrène. Et donc qui va permettre de former donc cet intermédiaire hautement énergétique qui va globalement lui-même s'insérer dans le noyau aromatique pour ensuite donner cet intermédiaire à cette chaînon, cette chitimine qui est très très électrophile via ce carbone, et donc on va avoir une addition d'une amine ici dans un nucléophile en cette position. Donc globalement on passe d'un noyau aromatique plat à quelque chose qui est déjà beaucoup moins, avec cette insertion de l'azote. Et globalement, si on hydrogène, évidemment, pour former ces azépanes ou ces dérivés-là, donc globalement, c'est un petit peu ce qui est montré ici. On part d'un nitro-ARN et on arrive à ces azépanes où là, il y a globalement quelque chose qui est tout plat, c'est simplement un composé 2D. Et là, évidemment, on a quelque chose azoté, 3D, beaucoup plus qui échappe au flatland. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on peut cette kétimine, on peut la piéger différemment. Donc voici un exemple ici. C'est relativement stable pour être isolé. Et ensuite, soit on fait une hydrogénation totale. Ici on va pouvoir activer cette position et introduire un organométallique et puis après hydrogénation obtenir ce dérivé sous la forme d'un sol d'ester isomère. Cette insertion d'un nitrène dans le cycle aromatique était déjà connue. Il y avait des précédents dans la littérature, notamment par von Döring. Alors, troisième thématique où la photochimie, notamment la photochimie sous LED, s'avère intéressante, c'est ce qu'on appelle le molecular editing. Alors c'est un terme qui est apparu relativement récemment dans la littérature, notamment dans ce Science 2019. Il y a aussi un JMed Chem récent qui reprend un peu l'histoire. Bon, il y a un certain nombre de revues là-dessus. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de... c'est Campos, Coleman et tous les co-auteurs de cet article sont des industriels, de Merck et d'un certain nombre de groupes pharmaceutiques. Et donc, c'est un article un peu un manifeste. Et donc, ils disent qu'une des idées les plus intrigantes et excitantes, ça serait de développer ce concept de molecular editing qui en fait inclut l'insertion ou l'élimination ou l'échange d'atomes sur un substrat qui est déjà très très fonctionnalisé. Donc globalement vous avez quelque chose qui est fait en plusieurs étapes, mais vous pouvez complètement changer finalement de façon sélective un seul atome ou un groupement fonctionnel, ou dans ce cas-là aussi on peut avoir différents types de editing, on va revenir là-dessus. Et c'est surtout que ça pourrait vraiment accélérer fortement la découverte de médicaments. Donc on peut avoir des skeletal editing, donc globalement on change le squelette, donc ça va être soit des contractions de cycle, ça va être des expansions, mais c'est surtout aussi donc, changer un atome, changer sa position, et ainsi de suite. On peut aussi faire du peripheral editing, donc il va être globalement introduire différents groupes fonctionnels sur le pharmacophore. On peut aussi faire du stereochemical editing, c'est-à-dire juste changer, par exemple, un centre sur une molécule de façon très, très sélective. Donc voilà, donc, l'idée, c'est s'économiser quand on a un substrat. C'est pas trouver une nouvelle voie de synthèse pour juste une petite modification, c'est trouver les conditions qui favorise la modification propre sur ce substrat et de façon sélective. Donc une autre vue intéressante là dans Nature là-dessus, où on voit ce substrat ici et ce bulldozer qui a enlevé l'atome bleu pour mettre un rouge, donc vous voyez, donc, sauf que l'image du bulldozer est peut-être suggestive de quelque chose de violent, mais en fait généralement c'est plutôt des conditions douces, mais bon globalement c'est un article intéressant qui reprend tous ces termes. Donc on va avoir des contributions de laboratoires, parce que je me suis concentré sur quelques contributions photochimiques. Il y a d'autres types de réactivités qui ont été engagées. Et surtout, le nombre de travaux qui sortent est assez important. Donc il fallait faire une sélection. Donc, le premier, c'est une publication de Marc Levin, qui est un des gros contributeurs dans ce domaine, qui est parti en fait du constat d'une chimie qui était assez connue, une fois de plus, dans les années 60, et qui est la chimie des quinolines N-oxydes, qui, en présence d'une irradiation UV, peut vous donner un mélange de produits assez important, dont ce dérivé ici où on a rétréci et on a diminué la taille du cycle et on a ce formaldéhyde où globalement c'est un DOL ici, mais a potentiellement une chimie très riche mais absolument pas sélective. On contrôle très mal les choses, et d'une façon générale l'idée c'est que quand on irradie cet intermédiaire on passe par une oxaziridine qui elle peut évoluer selon différents modes vers ces intermédiaires et globalement donner de façon isolable ces benzoxazépines. Okay. Donc ça, tout ça c'est photochimique, et là après l'idée c'est maintenant de piéger ça, et en fait c'est ce que va faire le travail de Marc Levin, c'est comment diriger ce genre d'intermédiaire vers des molécules assez intéressantes. Donc dans une revue aussi de 84, là, de Albini, ce genre de photo-excitation était connu. Là, ce n'est pas sur des dérivés aromatiques, c'est sur des dérivés alkyles, mais c'est la même idée. Vous voyez qu'en partant de cette nitrone ici, on peut obtenir une contraction de cycle, former cet amide, ou au contraire, avoir une extension de cycle. Donc, le travail de Levin, ici, c'était de partir de ce type de dérivé et de montrer comment, à partir d'une étape photochimique, et d'un nombre réduit d'étapes polaires, chimie plus classique, on pouvait obtenir finalement l'indole, on s'est débarrassé de l'aromatique, l'indole où on a gardé l'aromatique, mais du coup on a perdu le méthyle, juste échanger la position des deux substituants, et dans ce cas-là aussi, par exemple, introduire un nouvel azote ici. Donc vous voyez, c'est des potentiellement relativement puissant. Ici, les conditions sont un petit peu plus détaillées pour faire ça. On parlera après des mécanismes. En fait, l'idée, c'est de partir de ce substrat. On va l'oxyder. MCPBA va nous permettre d'introduire l'atome d'oxygène ici et de former le N-oxyde. Et puis, en rangement acide, on va passer par en fait, cet intermédiaire-là. On va voir comment. Et lui, après, on peut libérer l'amine libre en présence d'hydrazine. Une fois qu'on est là, en fait, ce qu'avaient montré les études de Levin, c'est qu'on peut introduire un phényl assez facilement sur un indole comme ça et faire une extension de cycle. C'est tout simplement cette diazirine. En fait, se clive assez facilement. Ça vous donne un carbène qui fait une addition ici pour faire un cyclopropane et ça se réarrange et ça vous donne ce produit. Et là, on peut refaire la même type de chimie. Donc, on oxyde, traitement acide, milieu basique, et donc on obtient l'indole maintenant avec le phényl ici, puisque c'est le substituant qui est là, qui reste là. Et puis une autre méthode pour introduire un azote ici que Levin avait aussi développé, c'est de passer en fait par l'hydrazine, et puis ensuite, en se mettant en milieu acide, d'insérer cet azote dans le cycle. Donc c'est une chimie qui peut se faire à relativement grosse échelle, donc 1 gramme, donc cette transition ici à ici. Ça peut se faire en flux, et donc c'est une bonne introduction pour le séminaire de Zach tout à l'heure. Et globalement, donc, c'est pour ça que aussi ça intéresse potentiellement les industriels, parce que finalement c'est pas difficile à mettre en œuvre. Donc au niveau du mécanisme, comment ça marche? Donc, on forme ce N-oxyde. En conditions photochimiques, on a le réarrangement qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire celui-là. Donc on a une attaque du O- ici, forme cette oxaziridine, qui va se réarranger en cette benzoxazépine. Et donc on arrive ici. Et ça, en traitement acide, en fait, on va pouvoir former ce indole benzoylé qui peut ensuite, on peut cliver cette liaison carbone-azote et libérer l'indole. Ce qui est intéressant, c'est de voir le mécanisme ici pour arriver à l'indole. Donc, on fait un traitement acide ici. Si on marque l'oxygène, oxygène 18, on va dire à 93%, on arrive à une teneur en oxygène 18 de 66%, donc on a perdu de la teneur en oxygène 18, parce qu'en fait il y a deux chemins concurrents. Soit on protonne l'azote et ça conduit à cet aldéhyde ici marqué, mais du coup quand on referme le cycle on perd de l'eau marquée, donc a priori ça contribue plutôt à l'érosion en oxygène 18. Où on protonne ici, ici, et on forme cet oxonium, et là on a une attaque de l'eau, et ça se réarrange en gardant l'oxygène 18 principalement, et puis ensuite on ferme le cycle par perte d'eau, et donc on obtient ça. Donc on a ces deux chemins concurrents, mais globalement un est plus suivi que l'autre, et c'est celui-là. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est, et ça c'est en discutant avec justement Marc Levin qui met ça dans sa conférence, et donc Marc Levin, j'en ai pas parlé, mais il est à l'Université de Chicago, donc c'est un jeune professeur qui a vraiment fait des contributions très importantes dans ce domaine, et ce qu'il met dans sa conférence, c'est ces deux spectres qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le récit de l'article, et qui sont assez éloquents, c'est-à-dire que si vous voulez faire ce réarrangement avec une lampe UV classique, voilà le tube RMN avec la lampe UV, et voilà le tube RMN avec les LED. Donc vous voyez déjà que d'après la couleur, on se dit que ça va être l'une va être plus propre que l'autre. Et maintenant, si on regarde la RMN correspondante, voilà, ça c'est la lampe UV, donc il y a du monde. Et ça c'est la LED, et vous voyez que c'est très propre, parce que globalement, on a ce produit qui est très très majoritaire, qui est celui-là. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que retrouver les signaux de lui ici, s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Donc, globalement, c'est vraiment particulièrement On voit bien que changer ces conditions-là était déterminant. Donc d'où l'importance de cette finalement de modification d'éclairage actuelle qui permet de revisiter toutes ces chimies et de les rendre beaucoup plus sélectives. Alors une autre travail de Mark Levin, c'est de transformer des azido-benzènes en pyridine. Donc là, on insère un azote. Et donc l'idée, c'est de former un intermédiaire ici, nitrène, qui lui va s'insérer dans le cycle, un peu comme tout à l'heure d'ailleurs, pour former le même type d'intermédiaire kétimine, qu'on va piéger par une amine spéciale. Alors NBC, on va juste, je vous dirai ce que c'est, et donc on va former la pyridine ici. Donc globalement, on parle d'un azide ici pour former une pyridine. Alors, c'est toujours bien de regarder les articles, il y a toujours cet aspect vendeur, mais finalement, je me posais aussi la question de savoir ce que finalement, est-ce que l'accès aux dérivés azides, finalement, aromatiques, est si simple que ça ? Donc la façon dont il est fait, bah, finalement, c'est relativement classique, hein, malgré tout, comme de type diazonium par certains côtés, hein, donc ça marche relativement bien. Diazonium sans de Meyer, et puis ou l'autre, c'est un couplage au cuivre qui lui permet quand même d'avoir l'accès à pas mal de dérivés azido-ARN facilement. Donc ça n'a pas l'air d'être vraiment un problème. L'autre point qui est très intéressant, c'est qu'on peut former deux kétimines ici, on peut former ces deux dérivés ici qui résultent de l'addition sur ces deux kétimines, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on n'obtient bien qu'une seule pyridine. Donc, c'est un bon exercice que vous pouvez reprendre, c'est comment en partant de là, on arrive bien ici. Alors, on va avoir un petit peu plus de détails sur cette étape. Donc, l'étape clé, c'est celle-là. C'est l'amine qu'il ajoute, en fait, c'est celle-là. Et donc, si on part de cet intermédiaire-là, mais on pourrait partir de l'autre, et ça reviendrait au même, c'est il va arriver à ce dérivé-là bicyclique. Alors, il avait essayé, l'idée c'est d'utiliser quelque chose qui est un donneur de Br+, pour favoriser cette cyclisation. Si on prend du NBS, il a une réaction qui est complètement autre de ce qu'il voulait, puisque globalement ce qu'il veut c'est fermer ce cycle. Et en fait, le succinylide s'additionne dans cette position-là, et ça globalement ça donne pas du tout ce qu'il faut. Et il utilise ce capro-lactam bromé, donc quelque chose qui est très très peu utilisé, mais qui est beaucoup moins réactif, qui est beaucoup plus sélectif et qui va permettre de former sélectivement donc un carbocation ici pour être piégé par cette hydroxy. Et là, ce qui était intéressant, c'est de savoir que dans la littérature, il y avait quelques éléments qui suggéraient que si on chauffe un dérivé comme ça, il va expulser le carbène correspondant. Donc on expulse ce carbène correspondant et donc on ferme le cycle. Et ce carbène a pu être observé parce que globalement il est oxydé. Puisque comme vous le savez, les carbènes peuvent être facilement oxydés ici pour former donc cette... c'est pas une urée, c'est l'équivalent d'un carbamate cyclique. Voilà. Et donc où ça devient intéressant, c'est de partir par exemple de cette... nortestostérone, 182 euros par gramme. Si vous voulez remplacer ici, avoir une pyridine ici, il vous faudra 11 étapes avec un rendement global de moins de 1%. Et donc c'est une molécule qui avait été examinée par Glaxo dans le passé. Alors que si vous partez de l'estrone ici, en 10% global, que 3 étapes, vous pouvez introduire la pyridine. Donc, ça, c'est un point de départ qui est aussi beaucoup moins cher. Donc, d'où l'idée d'accélérer la découverte de drogue, parce qu'on peut partir de substrats, donc, comme ce stéroïde très fonctionnalisé, transformer un phénol en pyridine en très peu d'étapes. Donc, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup montré les applications sur les médicaments, mais ces articles en donnent pas mal. Et autre type de skeletal editing, c'est de changer les squelettes, par exemple en enlevant complètement un atome, et ici c'est une approche par Sarpong, pour transformer des bicyclo 1-1-1 pantane, donc c'est pour obtenir ces dérivés-là, donc les bicyclo 1-1-1 pantane, à partir de ces dérivés-là. Et donc de trouver une voie de synthèse qui permette, un protocole qui permette d'éliminer l'azote. Donc, pour faire ça, il faut remonter un petit peu en amont. Comment faire ce dérivé-là? Il va développer en fait une réaction de 2 plus 2 intramoléculaire, comme on a vu la semaine dernière. Et donc, les précurseurs eux-mêmes viennent d'une réaction de condensation de ce type de dérivé avec une amine. Donc, au niveau synthèse, ça se traduit comment? On part d'un dérivé avec ce groupement acétyl. On forme ces énamines, on les irradie en présence d'un photocatalyseur. Globalement, on obtient le dérivé qui est ici après clivage du groupement TFA. Et une fois qu'on est là, on va utiliser ce substrat-là, qui est ce qu'on appelle un amide anomérique. Donc, je vais revenir sur ces dérivés-là. Mais si on utilise ce dérivé-là en présence de cet amide anomérique, on obtient l'extrusion du groupement azote. Alors, la photochimie ici, elle est relativement en amont, puisque c'est la 2 plus 2 photocatalysée qu'on peut faire soit avec une tube xanthone, avec une lampe mercure qui marche quand même pas mal, ou avec un photocatalyseur à 450 nanomètres avec cet iridium. Là, ça marche encore mieux. Dans ce cas-là, en fait, on va dire les conditions relativement classiques de photochimie, malgré tout, sont assez satisfaisantes. Mais dans certains cas, il y a des exemples où ça marche mieux et il vaut mieux passer par la photocatalyse. Bon, là aussi, le photocatalyseur qu'on utilise va être important. Donc, comment ça marche chez ces amides anomériques? En fait, il y a une revue très intéressante là, de 1998 par Glover qui dit qu'en fait, ce sont des molécules où on a généralement un carbone, par exemple, qui va être introduit ou vers deux hétéroatomes ici. Et donc, globalement, on va favoriser les conformations où on va avoir des recouvrements orbitalaires conjugants entre l'hétéroatome et une sigma étoile du carbone ici. Alors, ça c'est dans le cas d'un carbone, mais en fait ça peut s'étendre, ce principe peut s'étendre ici si vous avez un azote. Donc typiquement ici, dans le cas de ces amides, on a globalement deux hétéroatomes, et donc on va avoir un effet anomérique de celui-ci et de celui-ci qui va donner une réactivité très particulière à ces systèmes. Et notamment, dès qu'on les chauffe, en fait, ils donnent assez facilement un intermédiaire de ce type-là qui va perdre de l'azote et un intermédiaire nitrène et qui va, en fait, subir une scission homolytique pour donner les deux radicaux et donc conduire au couplage des deux substituants ici. Donc, c'est vraiment ce type d'hyperconjugaison, de stabilisation de type anomérique qui conduit à cette réactivité très particulière. Donc c'est utile. Si vous avez un dérivé donc azoté ici, en les traitant donc par ces anomériques, ces amides anomériques, on peut obtenir ces produits ici où on a enlevé l'azote. Donc c'est quelque chose qui a été repris dans la littérature sur d'autres systèmes, mais qui reste particulièrement, finalement, j'ai envie de dire, excitant d'un point de vue possibilité. Et puis un autre exemple sur lequel je vais m'arrêter aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi transformer une piperidine en cyclopentylamine, par exemple ici. Donc ça, c'est les travaux de Richmond Serpent qui est à Berkeley. De façon relativement simple, par l'irradiation avec le LED bleu. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est quelque chose où on va en fait d'abord partir d'une piperidine, on va introduire un groupement acyle ici, en fait on va utiliser la catalyse photorédox, et une fois qu'on irradie, on va pouvoir faire cette contraction de cycle avec excision de l'azote. Donc globalement, ce qui était intéressant, c'était, il y a une étude dans ces articles ici, dans ce JAX 2024, il y a une étude mécanistique relativement importante. En fait, on va avoir une réaction de type, ça fait penser à, globalement un peu une type no-riche, parce qu'on va exciter ce carbonyle, mais on va avoir un transfert monoélectronique de l'azote ici vers ce carbonyle, et ensuite une fragmentation. Donc je crois que c'est marqué ici, voilà. Donc globalement, ça c'est le dérivé, on forme ça, on parle de la pipéridine ici, en présence d'un chlorure d'acide, on forme cette pipéridine avec ce groupement acétyle dans des conditions de catalyse photorédox, quelque chose qui marche assez bien. Donc en fait, c'est comme si on activait une activation CH ici, et on oxyde cet azote. Et une fois qu'on a ce dérivé-là, on l'irradie à 400 nanomètres, on excite le carbonyle avec, dans ce cas-là, l'azote ici. D'ailleurs, excusez-moi, c'est l'inverse. On excite l'azote qui va en fait. On excite les deux et on va avoir un transfert monoélectronique de l'azote sur la, c'est ce qu'on voit ici en fait. Et on a un transfert monoélectronique ici sur le carbonyle excité. Donc c'est le carbonyle qui est excité et un transfert monoélectronique sur ce carbonyle. Et puis ensuite, on a un transfert de protons pour conduire à ce dérivé-là. L'autre possibilité, c'est qu'en fait ce carbonyle photoexcité faisait un transfert d'hydrogène 1,5 et une NO-riche 2 de type NO-riche 2 pour conduire cet intermédiaire radicalaire, mais bon, toutes leurs études semblent correspondre au fait qu'on a ce transfert monoélectronique de l'amine sur le carbonyle photoexcité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, et bon, j'avais posé la question, à aucun moment on fait de la norrichienne, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas, ce diradical-là ne se ferme pas pour former un cycle A4. On a globalement cette fragmentation qui est très très favorable. Et en fait, une fois qu'on a formé cet intermédiaire, il se referme par une réaction de Mannich. Voilà ce principe là d'editing. Et j'avoue que juste hier soir, je regardais ça. Donc ça va vite. Donc sorti très récemment, ce JAX 2025. Même type de chimie, mais maintenant une version énantio-sélective. Parce qu'une fois qu'on a cet intermédiaire qui vient, donc qu'on a ici, vous voyez, globalement, si on a un acide phosphorique énantio pur, bah globalement, on peut maintenant avoir l'énantiosélectivité ici pour former ces composés. Puisqu'on on a un très bon contrôle, un très bon diastérocontrôle, mais aussi on peut avoir un énantiocontrôle en mettant des acides phosphoriques chiro. Donc, c'est une chimie qui est quand même très, très puissante, puisqu'on là, on parle de quelque chose de racémique, et donc on arrive à un seul énantiomère de quelque chose, un squelette complètement différent. Donc on voit bien que les possibilités sont importantes. Voilà, donc c'est donc les trois histoires pour aujourd'hui qui, dans le cas des deux dernières, vont certainement voir encore pas mal de développement et celle-là encore probablement peut-être encore plus. Et donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Alors disons que si tu regardes les premiers papiers, sur les nitro-arènes. Alors, les nitro-arènes, étonnamment, il y a quand même des papiers où la sélectivité était vraiment non négligeable. Par exemple, si on prend cette chimie-là, de quinoline anoxyde, là, on a vraiment des mélanges. C'est difficile de les papiers avec l'UV. Là, je pense que c'était vraiment pas hyper, hyper sélectif. Bon, après, en off, un certain nombre de ces papiers quand même anciens sont d'une richesse déjà incroyable en termes de suggestions. Donc, je ne veux pas dire que ça a été facile de ressortir ça, mais dans certains cas, c'était quand même particulièrement bien établi. Notamment, objectivement, moi, je vous conseille de lire, évidemment, cet article magnifique. Mais si vous lisez celui-ci qui a 50 ans avant, c'est quand même impressionnant. Donc là, typiquement, la sélectivité n'était pas si mal et tout. Mais bon, c'est vrai que l'éclairage a changé pas mal de choses. Et on le voit d'ailleurs, si tu veux, avec les N-arènes. Moi, j'ai regardé la littérature, je n'ai pas vu de choses nouvelles dans des conditions plus douces. Alors, je suis peut-être passé à côté, mais je n'en ai pas vu. Alors peut-être que la flow là, pourrait aider quand même, mine de rien.
même avec de l'UV, enfin je ne sais pas, à voir, parce que franchement, les rendements sont là, sont vraiment, dans certains cas, très 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 bas. Ce qui est dommage, c'est une super belle réaction, quoi.
Mais je n'ai pas vu. Mais sur les autres, c'est variable, mais certaines réactions sont quand même assez peu sélectives. Mais par exemple, sur celle-là, bon, il y avait quand même pas mal de choses, typiquement. Ouais. Oui, finalement, c'est pas négligeable, tout à fait, ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'elles le sont, là. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut leur... soit leur demander, soit leur écrire. Enfin bon, je pense que dans l'IC, c'est assez bien décrit. J'avoue, j'ai pas regardé ce détail, mais c'est vrai que ça m'a un peu interpellé, ces Purple LED 390. Je sais pas qui fabrique ça ou pas, mais c'est intéressant, ouais. Ouais. Nous, on a eu... c'est assez rigolo. On avait acheté des Purple LED qui étaient assez marrants. C'était un recouvrement de lumière rouge et bleu. C'était pas une vraie purple LED, mais ouais. Ouais. Mais bon. Donc, bon, après, je pense que les deux, si tu leur demandes des détails, te les donneront. Mais c'est vrai que moi aussi, je me suis posé la question sur ces éclairages. Bon, quand tu regardes bien dans le détail, il y a le package est bien vendu, c'est sûr qu'il y a des limitations, mais sur le principe c'est quand même intéressant, notamment ce switch NP étoile à PP étoile est vraiment intéressant, mais il était mentionné dans l'article de Saito, mine de rien, c'est ça qui est dingue. Moi, je suis tombé là-dessus, je me suis dit, ah, j'ai vérifié cette tref et là j'étais scié, quoi. Il y a vraiment énormément de choses, quoi. Ouais, alors là moi ouais, ça m'est dit. Bah, les développements synthétiques, eux, vont très vite. Les développements de recherche clinique, je ne sais pas. Je pense que oui. Je pense que là, du coup, l'IA, d'ailleurs, doit pouvoir potentiellement accélérer énormément les choses. Après, moi, l'impression que j'ai, c'est que, indépendamment des efforts synthétiques, ou si une boîte tient une bonne molécule, elle passe... les bonnes étapes, elle va la garder jusqu'au bout indépendamment, même si la synthèse reste, on va dire, un peu obsolète. Ou bon, certains médicaments qui sont sortis récemment, je pense à l'anticancéreux de la prostate, là, par Mike Jung, si vous regardez la molécule, c'est du biaryl plus ou moins tout plat, pas de centre stérogène. Et tout, c'est très très simple. Bon, la synthèse est probablement optimisable, mais bon, elle marche tellement bien que voilà. Donc il y a encore des. Mais c'est vrai que, disons que l'idée ici, c'est comment avoir un. Et d'ailleurs, l'histoire de Mike Jung est intéressante. Lui, il est parti d'un truc qui marchait et comment l'améliorer. Et je pense que c'est un peu ça, cette histoire d'optimiser la découverte de médicaments. C'est finalement. Vous avez un composé, vous avez un aromatique un peu isolé. Si vous transformez ce noyau aromatique en pyridine, alors certainement ça va énormément changer les choses, mais est-ce que ça ne booste pas l'activité ou tout ? C'est comment partir déjà d'une librairie de choses, on va dire, très bioactives, et juste en les prenant et avec un nombre très minimal d'étapes, très facile à mettre en œuvre, vous pouvez arriver à des analogues et les tester, quoi. Donc ça, on sait que ça peut accélérer aussi la découverte. Ok, bon, s'il n'y a pas plus de questions, ouais, je vous propose de faire une petite pause technique comme la semaine dernière et de nous retrouver donc pile à 11h pour le séminaire donc de Zach. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. Collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.